Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Raconte ta parentalité. Parents, c'est le plus beau métier du monde, alors pourquoi ne pas le raconter? À chaque épisode, je recevrai un invité qui racontera sa parentalité ou comment il l'a vécu. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Alissata Ndiaye. Salut Alissata, comment tu vas?
Bonjour Aminata, je vais bien et toi?
Très bien, ça va être un épisode assez particulier parce que tu es ma sœur, ma grande sœur de surcroît.
Effectivement.
Alors, est-ce que tu veux bien te présenter pour que les auditeurs sachent à qui ils ont affaire?
Alors, comme tu l'as dit, je suis ta grande sœur, mais pas que. Je suis Alissata Ndiaye, donc maman de deux enfants, de 24 ans, bientôt 25 dans deux mois, et d'un autre enfant de 21 ans, qui aura 22 ans en fin d'année.
Ok, alors pour commencer, je vais te demander qui était Alissata la petite fille. Comment tu étais dans tes souvenirs enfant?
Mes souvenirs d'enfance, espiègle.
Ah, excuse-moi, juste avant, est-ce que tu veux bien nous planter le décor du schéma familial dans lequel tu as évolué? Est-ce que famille en couple, famille monoparentale? Comment t'as grandi?
Alors, j'ai grandi au moins jusqu'à l'âge de 13 ans avec mes deux parents et mes sœurs. Et à ce moment-là, voilà. Donc, j'ai trois sœurs au départ. Voilà.
Et ensuite, à partir de 13 ans
À partir de là, donc, j'ai grandi de manière assez traditionnelle, classique, donc de parents sénégalais mauritaniens, donc d'ethnie Peul. Dans mon plus lointain souvenir, je sais que mes parents parlaient pas très bien français, donc ils parlaient pas même français quand ils sont arrivés en France. Pour ma mère, elle est arrivée dans les fin des années 70, donc je sais qu'ils m'ont beaucoup parlé Peul. Et donc, ce que j'ai appris bien plus tard, c'est que quand je suis rentrée à l'école, je ne parlais pas français.
Ah ouais?
Je parlais Peul.
Ok, donc tu as appris le français en entrant à l'école.
Exactement. Toute petite section d'ailleurs.
D'accord. Donc, tu nous dis que jusqu'à 13 ans, tu as évolué avec tes deux parents. Et ensuite?
Ensuite, donc, nos parents ont divorcé. Et après, ma mère a vécu seule avec mes sœurs. Et après, elle s'est remariée, mais elle avait fait le choix, vu que mon beau-père, en tout cas à l'époque, vivait à Marseille, de vivre chacun restait dans leur région. Et mon beau-père remontait... un week-end, deux week-ends par mois. Enfin bref, ils avaient leur organisation. Et donc, j'ai grandi aussi avec un beau-père. Alors, je continuais à voir mon père qui venait nous chercher un week-end sur deux. Voilà, un mode de garde assez classique, mais assez inhabituel. Car milieu des années 80, c'était assez rare que des femmes africaines... demande le divorce. Voilà, donc j'ai grandi dans ce climat-là avec des joies, avec des peines, il y avait beaucoup de conflits entre mes parents. Donc je pouvais aussi être le tiers pour les séparer. Et puis je me suis beaucoup occupée de mes sœurs. Donc vraiment le rôle de sœur aînée dans toute sa splendeur.
D'accord. Tu as dit que tu avais trois sœurs dans un premier temps, donc vous êtes quatre.
Ouais.
Et il y a eu des naissances après ou pas?
Oui, il y a eu suite au second mariage de ma mère, il y a eu trois autres enfants. Donc j'ai deux frères et une sœur.
D'accord, donc en tout vous êtes sept.
Exact.
D'accord, est-ce que tu peux nous dire quelle...
Ah non, excuse-moi. Je précise, nous sommes sept du côté de ma mère et mon père a eu un autre enfant. À l'issue, parce que lui aussi s'est marié et il a eu également un garçon.
Donc vous êtes huit.
Ouais.
D'accord. Est-ce que tu peux me parler du lien que tu avais avec tes parents, avec ta mère, ton père, enfant, dans un premier temps, toute petite? Est-ce que tu étais plutôt proche de tes parents? Est-ce que vous étiez dans l'échange? Est-ce que tu te souviens du lien que tu pouvais avoir, petite fille, avec ton père ou ta mère, ou même ton beau-père, hein?
J'avais, alors dans mes souvenirs, et peut-être j'idéalise parce que mon père est décédé à l'âge de 70 ans, mais quand même, quand je vois un peu les photos et quand j'en échange un petit peu, j'avais plus de liens affectueux avec mon père qu'avec ma mère, avec mon oncle et avec ma défunte tante aussi. Ma mère a toujours été présente, mais elle était assez sévère voilà, vis-à-vis de moi. Et puis j'étais une enfant un peu, alors pas agitée, mais beaucoup en lien avec les autres. Voilà, j'étais beaucoup en lien avec les autres, avec les autres enfants, avec les adultes, beaucoup à parler, à rigoler. Enfin bref, j'étais pas ce qu'on pourrait dire la petite fille un petit peu inhibée, introvertie, assise et à ne pas bouger. Ça, c'est ma sœur qui est juste après moi, Mariam.
D'accord. Et du coup, petite fille, comment tu voyais les adultes? Quel regard tu portais du coup sur les adultes en fonction du schéma familial que tu avais peut-être ou d'autres représentations?
J'étais assez admirative des hommes de ma famille. Mon père était quelqu'un de très jovial, de très sympathique. Alors, il travaillait beaucoup. Mais voilà, dans le lien que je pouvais avoir avec lui, c'était voilà, assez bienveillant dans la communication. Je sortais quand même pas mal avec lui. Après, j'avais un oncle, de moi, j'avais, je l'ai toujours, aussi très présent, avec qui j'avais beaucoup plaisir à échanger, à discuter. Donc les hommes de la famille, parce que je parle de cet oncle-là, mais j'en avais d'autres, j'étais quand même pas mal en lien. Voilà, pas mal en lien. Les femmes, donc, dont ma mère et mes tantes aussi, mais en lien, elles étaient toutes bienveillantes et assez sécurisantes. Encore une fois, le lien avec ma mère, il était quand même particulier parce que j'ai toujours trouvé que ma mère a été extrêmement sévère avec moi.
Ok, alors on va s'arrêter un petit peu sur ça. Donc, quand tu dis que tu as trouvé que ta mère avait été sévère particulièrement avec toi, qu'est-ce que tu entends? Donc, tu nous dis, enfin, qu'est-ce que tu entends par là et comment ça se traduit? Tu nous dis que tes parents, quand ils sont arrivés en France, ils étaient peu francophones pour le coup. Est-ce que c'était une éducation à l'ancienne, une éducation qui enfin, est-ce que tu arrives à définir en quelques mots la sévérité dont tu parles?
Alors, je sais que ma mère, elle a été élevée une grande partie de sa jeunesse par sa tante, donc la sœur de son père, qui pouvait pas avoir d'enfant, elle était aussi très sévère. Donc, ma mère, je pense que par mimétisme, elle a fait de même.
D'accord.
En plus, elle a été mariée très jeune, donc elle avait 13 ans. Elle n'a pas tout de suite vécu avec mon père parce que mon père avait immigré assez quelques années après en France. Donc elle s'est faite un peu toute seule de 13 jusqu'à à peu près 17 ans, jusqu'à ce qu'elle arrive en France, du moins toute seule. Non, parce qu'elle avait sa belle famille qui était là. Et c'était pas simple. Elle n'a pas vécu les plus belles, sa plus belle adolescence là-bas. Et après, quand elle est arrivée en France, elle était assez isolée bon, au départ. Et puis, elle est tombée enceinte quasi un an après.
D'accord.
Donc, pour moi, si elle était comme ça, si elle est encore un peu comme ça, c'est vraiment par mimétisme. Après, je pense qu'il y avait aussi cette pression de vouloir bien éduquer son enfant, ses enfants, d'autant plus que j'étais la première, donc il devait, la pression, plus tu rajoutes le divorce, la séparation, donc voilà, il y avait beaucoup d'enjeux et beaucoup de poids sur mes épaules.
D'accord. Tu parles justement de ce divorce qui arrive aux alentours de 13 ans. Donc là, tes trois petites sœurs sont déjà nées. D'accord. Donc comment ça se passe dans le lien avec justement avec ces trois petites sœurs dont tu as en partie la responsabilité? Comment ça se passe?
Dans mes souvenirs, je suis dans la protection, hein. Je me souviens que j'étais beaucoup dans la protection, à pouvoir, en tout cas, essayer, tenter de les isoler, d'essayer de dissimuler ce qui se passait, mais bon, c'était un peu compliqué. J'essayais de encore une fois, ce que je te disais, j'essayais de temporiser ce qui était possible de temporiser quand les éclats de voix étaient trop forts, quand les coups partaient, c'était compliqué. Mes sœurs, elles étaient jeunes. Comme je disais, hein, celle qui est après moi est un peu plus introvertie. Toi, tu étais très sensible, donc tu comprenais pas. Et après, celle qui est après nous, après toi aussi. Donc j'ai essayé de colmater, mais voilà, une forme de protection. Et puis, même si moi je le faisais pas, ma mère, du moins ma mère, notre mère, elle me demandait de m'occuper de vous.
Du coup, tu parles d'un climat assez conflictuel entre tes parents, de la violence conjugale, j'ai entendu coup partir. À 13 ans, de 13 ans à 17 ans, comment ça se passe pour du coup, Alissata, tes parents décident de divorcer. Comment ta mère décide de divorcer, comment les choses se mettent en place, comment tu évolues, comment tu grandis. Est-ce que tu t'arrives à te projeter? Quel genre d'adolescente tu es, du coup?
Je vois que, en tout cas à ce moment-là, je vois que ma mère, elle a pris sa décision. Et il y a une image qui me frappe, c'est-à-dire que assez rapidement, elle troque son pagne pour mettre un pantalon, pour mettre un pull, pour mettre des baskets et pour aller chercher du travail. Elle prenait déjà des cours d'alphabétisation, de couture, de cuisine dans la maison de quartier. En bas de la maison, donc il y avait déjà un début de sociabilisation, et puis elle nous accompagnait à l'école en étant enfant. Donc voilà, début de mon adolescence, je me rappelle de ça beaucoup,
Qu'elle s'émancipe.
qu'elle s'émancipe, qu'il faut trouver des solutions pour qu'elle puisse payer le loyer, remplir le frigo et payer les factures. Et ça, c'est quelque chose qu'elle inculque, je pense, pour l'ensemble d'entre nous, mais très rapidement et de manière assez claire. Voilà, moi, je grandis comme ça. À côté de ça, on est une des seules familles, en tout cas dans notre quartier, dans notre petite résidence. On l'appelait une cité, mais aujourd'hui, on voit bien que ce
On
n'est pas
sait
une
que c'était une
cité.
résidence.
C'était une résidence. Encore une fois, voilà, c'était le premier couple qui divorçait. Et on parle de divorce administratif, donc tribunal. Donc tout ce que ça comporte, les enjeux. Moi, je vis ma vie d'adolescente. En plus, je suis très vite formée. J'ai mes règles assez rapidement. Ma mère, là, tout de suite, déjà avant, je pense déjà qu'elle l'était, mais en tout cas, moi, elle m'interdit complètement de parler aux garçons. Même le bonjour, c'était juste pas possible. Du coup, je suis dans une forme de sororité. Dès ma jeunesse, dès l'adolescence, et j'ai plein de copines. Voilà, moi j'ai plein de copines, je rigole, je discute. Voilà, je vagabonde pas parce que j'ai des heures d'entrée, j'ai des heures de sortie.
Tu te souviens un peu à quelle heure
Ah
tu as le droit de sortir et rentrer?
oui, 20h30, je crois que tous ceux qui me connaissent, en tout cas à cette époque-là, ils entendent bien ma mère par la fenêtre à nous appeler, et que de toute façon, on avait aussi une gardienne dans cette résidence qui rameutait tous les enfants parce que c'était l'heure de rentrer. Donc moi, j'étais une des premières à rentrer à 20h30, à mon grand désarroi, même l'été, même quand j'en avais 16, 15, 17, allez, jusqu'à pas d'âge. Je vois que ça te fait rire.
Ouais, parce qu'on a connu, on regarde les autres par le balcon. Et,
Oui.
enfin, moi, c'était à Villepinte, mais à Fontenay, on n'avait pas de balcon, donc par la fenêtre. On a subi, effectivement.
Ouais,
Du
moins
coup,
longtemps quand toi, moins
ouais,
longtemps.
moins longtemps après,
Non, il y avait
c'était
de la
pas tout à fait
rébellion
le
là.
même profil.
Ouais.
Tu dis que tu as plein de copines. Du coup, vous sortez, vous échangez, vous discutez. Très vite, vont arriver peut-être les premiers amours.
très très vite. Là, là-dessus, je suis quand même un peu...
rebelle un peu...
Ouais, non.
Bah, t'avais pas le droit de dire bonjour aux garçons.
Ouais, non, mais je crois qu'elle avait compris que j'étais un peu précoce. Parce qu'en primaire, déjà, j'avais déjà un amoureux. Mmh. En primaire, j'avais un amoureux. On s'est suivis jusqu'au collège. Et après, bah, voilà, quoi. En fait, plus tu interdis, plus tu as envie de découvrir. Donc, j'avais pas 1000 amoureux. J'en avais quand même quelques-uns, certes. Et puis, j'avais un meilleur ami d'enfance qu'elle tolérait, qu'elle aimait bien, d'ailleurs, parce qu'elle connaissait la maman et qu'on était dans la même résidence. Mais ouais, j'avais quand même pas mal de copains. Et en plus, comme je te disais, j'avais de la poitrine, j'étais très vite formée par rapport à certaines de mes copines.
D'accord. Comment, à l'adolescence, tu te projettes? Est-ce que tu t'imagines en couple, te marier, avoir des enfants? Je ne parle même pas du moment où ça t'arrive, mais vraiment, est-ce que vous projetez? Est-ce que dans les conversations entre copines, vous vous projetez dans plus tard, quand on sera chez nous, quand on sera marié? Ou pas du tout?
Oui, alors moi j'avais l'impression d'avoir pas deux vies, mais j'ai vraiment un métissage culturel et éducatif. C'est-à-dire qu'effectivement, là où on a grandi, en tout cas plus moi que toi, parce qu'après vous avez déménagé, et moi j'étais déjà partie de la maison, mais c'était, comme j'aime si bien dire, Benetton. Donc il n'y avait pas une majorité de familles africaines, maghrébines, etc. C'était vraiment vraiment très mixte, et la population dominante dans cette résidence, c'était les Français. Voilà, les Français de souche, blancs. Du coup, on était tous mélangés, que ce soit dans notre scolarité. Et en plus, on grandissait tous ensemble dans la cour, on jouait ensemble. Donc, on discutait de pas mal de choses. Donc, pour répondre à cette question, vu que moi, j'étais déjà là, et c'est là, en discutant dans ce côté girl power, le gang des filles, entre copines, dans ma projection, c'était plus on va vivre ensemble, on va voyager, etc. Aller faire des fêtes, etc. Non. Ouais. Moi, j'étais plus en mode... je suis avec mes copines, etc. Parce que j'étais déjà, pas déjà parent, mais une fois que je rentrais à la maison, j'avais un rôle, entre guillemets, de parent. J'étais grande sœur et je devais me coltiner mes petites sœurs. Coltiner, m'occuper, laver, cuisiner, etc. Donc, en soi, être parent, j'étais déjà grande sœur et je savais déjà ce que c'était, donc j'étais pas... plus pressé que ça de l'aide, parce que pour moi, ça se termine, du moins c'est pas que ça se terminait pas, mais comme je te disais, maman l'a divorcé, après il y a eu notre premier frère, j'étais in love, c'était le premier garçon, donc j'étais aussi dans le maternage, donc tout au long de ma jeunesse, je me suis occupée d'enfants. Donc dans mon adolescence, de me dire ah, je suis pressée d'être parent ou j'ai envie d'avoir un bébé, un mari ou quoi que ce soit. Non, c'était pas ça.
Plus envie de liberté, de voyager, de découvrir.
D'être avec mes copines. Hein. Mmh. Pas forcément. Ouais, voyager avec mes copines, liberté avec mes copines, écouter de la musique avec mes copines, faire la fête avec mes copines, tout avec mes copines. Et peu importe les copines. C'est-à-dire, j'avais déjà plusieurs crews. Après, il y avait l'histoire de du moins l'histoire, à un moment donné, un peu ta quête identitaire. Mmh. Alors, je suis qui, je suis quoi, française, sénégalaise, mauritanienne, je parle peul, mes parents, la tradition peul, mes voyages, mes allers-retours l'été au Sénégal. Tout ça, c'était mélangé. Et dans notre résidence, on n'était pas non plus très nombreux à partir au pays. On était D'autres familles le faisaient, mais nous, on avait quand même... en tout cas, nos parents avaient cette habitude de faire en sorte qu'au moins tous les 3 ans, nous puissions partir.
D'accord. On va s'arrêter un petit peu justement sur cette période de l'enfance et de l'adolescence. Aujourd'hui, tu es la présidente du GAMS national. On arrive là par hasard.
Oui et non.
Tu nous racontes?
Oui et non, dans le sens où c'est dans le cadre de mon travail qui m'amène au GAMS. Donc à l'époque, je suis travailleur social, j'accompagne des familles, des personnes isolées et des familles monoparentales. Et là, dans ce cadre-là de mon exercice, j'ai une femme qui est en train d'essayer de régulariser sa situation administrative. Elle a une petite fille, Marly, et elle a subi l'excision et elle m'informe que si elle repart dans son pays qui est la Guinée, sa fille va forcément se faire exciser parce que le père de Marly, la belle famille et elle de son côté souhaitent absolument que sa fille soit excisée. Donc moi à ce moment-là, j'avais déjà une sensibilité sur différentes violences faites aux femmes. J'avais une affiche. Et je pense que c'est suite à cette affiche qui était accrochée dans mon bureau, une affiche du GAMS. Donc, de là, je prends mon téléphone et je lui dis, écoute, voilà, il y a une association qui s'occupe de ça, on va les appeler, donc de l'excision, et qui lutte contre l'excision et les mariages forcés, on va les appeler, on va voir ce qu'on peut y faire. Donc, de là, je les... Ça me fait sourire parce que c'était avec toi en plus. Après, je les contacte, ils nous donnent des renseignements. Et par la suite, on n'était pas loin de la journée internationale de lutte contre l'excision, donc, qui est chaque 6 février. Et ils organisaient un débat, une projection de débat. Et dans l'échange, qui était très cordial, ils ont proposé à ce que je vienne et que je puisse venir avec... des résidents, etc. Et je me souviens que je t'avais dit ce que j'allais faire ce samedi-là, parce que c'était un samedi, et tu étais intéressée, et tu m'as dit, vas-y, je t'accompagne. Et c'est comme ça qu'on a connu le GAMS, de manière concrète, de visu.
Ça, t'as dit, là, t'as parler aussi de cette approche professionnelle par rapport au GAMS. Mais dans ton histoire, ça résonne aussi fortement. Est-ce qu'on s'arrête sur ça ou est-ce qu'on passe ?
Est-ce qu'on s'arrête sur ça ou est-ce qu'on passe ?
L'idée étant que quand même, les auditeurs...
Je vois ce que tu veux dire.
Et c'est pour ça que je pose la question, parce que forcément, on se connaît, parce qu'on est sœurs. Et l'idée, c'est quand même que les auditeurs, les personnes qui nous écoutent, les parents qui nous écoutent, puissent se rendre compte que dans chaque parcours, on peut retrouver des choses qui peuvent être des forces pour nous sortir la tête de l'eau, pour concertiser, pour réaliser, pour se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et du coup, est-ce que toi, tu veux t'arrêter sur ce moment de ton enfance ? Est-ce que tu veux témoigner ?
De toute façon, je suis là pour ça. Hein.
Alors, il y a une année particulière sur un voyage qui se fait pour toi ?
Ouais, j'ai 8 ans. C'est la première fois que je pars au Sénégal. Ma mère, elle est toute excitée, mon père aussi, parce que je vais rencontrer la famille. Donc, grand-mère, grand-père côté maternel, car les grands-parents paternels sont décédés. Mais je rencontrerai aussi... le grand frère de notre père, qui a une place importante pour lui, qui l'a élevé, sa femme et les cousins et les cousines. Donc, c'est le premier voyage. Et je pars accompagné d'un de nos oncles qui m'emmène jusqu'à la maison de notre grand-mère. Pour la première fois que je rencontre. Donc, je suis hyper excitée parce que, à 8 ans, tu prends l'avion pour la première fois, tu vas découvrir l'Afrique. Donc, l'Afrique avec des yeux d'une afro-descendante, avec un regard un petit peu, pas édulcoré, mais on est un peu dans Tintin au Congo, quoi. Donc, tu dis, quand tu vas descendre de l'avion, tu vas tomber sur des lions. Bon, enfin, bref, n'importe quoi.
Avec tout l'imaginaire d'un enfant de 8 ans.
Avec tout l'imaginaire d'une enfant de 8 ans. Et puis, je vais voir une grand-mère. Voilà, j'ai une grand-mère, je ne l'ai pas vue, je ne la connais pas. Je découvre une grand-mère et je suis fan. Je la rencontre, je suis fan, je la vois, je la trouve magnifique. Enfin, bref. Et puis, je me dis, je vais peut-être... du moins, je pense qu'inconsciemment, quelque part, je vais me dire, je vais peut-être mieux connaître ma mère ou en tout cas voir qui est cette femme. Déjà, dans ma tête, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Quand ce voyage, tu le fais avec tes deux parents ?
Non. notre père reste ici, il s'occupe de vous, ou plus ou moins, où il travaille, où vous êtes gardé par des tantes. Notre mère me rejoint genre 10-15 jours après, je crois. J'ai pas la notion du temps à ce moment-là, mais elle nous rejoint. Elle me rejoint parce que je pars toute seule.
D'accord.
Elle me rejoint. Donc pendant ce laps de temps où je suis avec notre grand-mère, les tantes, parce qu'on n'avait pas encore, elles n'avaient pas encore des enfants, les tantes et les oncles. Donc je découvre. Donc, je maîtrise encore un peu la langue parce que, entre-temps, je parle français et là, je parle quasiment... en tout cas, je parle très peu le peul. Je le parle, mais je le baragouine avec du français. Mais ça revient très, très vite. Donc, je découvre la culture, je découvre nos us et nos coutumes et je découvre nos traditions. Et à travers ce premier voyage, je découvre, en tout cas, je subis l'excision. Donc, j'ai 8 ans. C'est tout un monde qui s'écroule parce que je me fais un peu berner, hein, comme une enfant. Notre grand-mère, elle me demande de l'accompagner au marché. Moi, je suis tout
là, ta mère, elle est déjà arrivée ou
non,
pas encore?
Non, elle n'est pas arrivée.
OK.
Donc, je l'accompagne. Je l'accompagne. On fait quand même pas mal de routes pour aller à ce fameux marché. Et là, je me retrouve dans une pièce et les femmes... notre grand-mère, elle m'attend. Elle me dit, vas-y, suis la dame. Hop, et il se passe ce qui se passe. Donc, on m'excise. Je suis horrifiée, je pleure, j'arrive pas à marcher. Enfin bref, je crois que la grand-mère, elle a eu peur. Parce que là...
elle s'attendait pas, ouais.
Non, je crois que... c'est pas la première fois qu'elle fait exciser ses enfants ou ses petites filles. Mais je crois que là, elle a eu peur. Et elle a encore eu plus peur quand maman, elle appelle pour prendre de mes nouvelles, comme ce qu'elle faisait quasi tous les jours, et qu'elle lui explique ce qui s'est passé. Qu'elle me fait exciser. Et là...
Ta mère, j'allais dire maman, elle l'apprend...
Ouais, elle ne le savait pas.
Elle ne le savait pas, elle l'apprend au moment où elle t'appelle pour prendre des nouvelles comme tous les jours.
Ouais.
Et donc là, ta grand-mère, elle doit lui annoncer parce qu'en plus, t'es pas bien.
En fait, je crois que... Non, c'est pas elle appelle. C'est moi qui lui demande de l'appeler. Je me souviens. C'est moi qui demande que je veux leur parler. Je veux parler à maman, je veux parler à papa. Et je leur explique. En fait, je leur dis pas excision parce que je sais pas
ce
que c'est.
Tu sais pas ce que c'est.
Mais je leur dis juste le terme que grand-mère elle avait, le Jack's House, ça s'appelle Jack's House, c'est peut-être le lieu. Et tout de suite, j'entends comme de l'effroi chez maman. Papa, je crois qu'il est là, ou en tout cas, je ne l'ai pas tout de suite, mais en tout cas, pareil, je sens que ça ne va pas le faire du tout. Et d'ailleurs, ils se prennent la tête, hein. Ils se prennent la tête. Moi, je ne parle plus à grand-mère pendant plusieurs jours. Il y a des soins qui me sont prodigués, mais je ne veux vraiment pas du tout qu'elle s'approche de moi. Je suis très, très en colère jusqu'à ce que maman, elle arrive. Je crois qu'elle est affectueuse ou je ne sais pas. Je crois qu'elle a quand même une forme d'affection, de pitié et à la fois, elle reste un peu...
De marbre.
Ouais, un peu de marbre, quoi. Comme elle sait l'être aussi, donc voilà, je vais mieux, je guéris, je cicatrise. Les séjours poursuivent, mais là, c'est un peu le blackout.
C'est fou après, ouais.
Je rentre, et là, tout le monde me demande comment c'était. Tout le monde me demande comment c'était l'Afrique. Parce que j'étais une des premières à partir. Et je dis rien. Je sais que ce qui s'est passé ne devait pas se passer, Est-ce que je dis rien? Parce que peut-être maman m'a dit de rien dire, mais je sais que je dis rien.
Tu te souviens même plus vraiment?
Ouais, non, je dis rien. Je dis rien, je l'efface en fait. Je le gomme. Et d'ailleurs, je crois que quand je rentre, je raconte un peu, je raconte les vacances, mais j'enjolive. Mm. J'ai vu des lions, j'ai vu des... je raconte n'importe quoi.
J'ai été accueillie par une girafe.
Ouais, non, on n'est pas dans... Il n'y a pas des huttes. Non, bref, je raconte, je suis partie au puits. En fait, je raconte tout ce qui m'a impressionnée et j'enjolive. Mais cette partie-là, next.
D'ailleurs, nous, on l'a... Bon, alors, toi, tu as 8 heures, alors nous, on est encore des... des bébés, mais bien plus tard, on l'apprend. Ouais. Par contre, c'est vrai que à partir de ce moment, on nous prévient des risques et on fait en sorte que nous, on soit pas excisés. Est-ce que tu te souviens un peu de comment on nous met en garde à ce moment-là?
Je me souviens pas de la mise en garde. Par contre, je me souviens bien que ce soit maman ou papa, il était hors de question qu'il y ait un autre enfant qui soit excisé. Donc, voilà. Je n'ai pas, du moins, si, certainement, ou peut-être même moi, j'ai peut-être dû dire quelque chose. Tu vois, je me souviens pas clairement. Ça ne m'étonnerait pas que je vous ai mis en garde ou quoi que ce soit. Mais je sais qu'il y avait, en tout cas... alors, je ne sais pas. Est-ce que je me l'invente Mais non, je crois pas. Je crois que vraiment... Non, mais de toute façon, s'ils voulaient vraiment que vous soyez excisés, vous l'auriez été. Mmh. Mais pour autant, effectivement, si on devait... Après, j'étais comme une louve avec vous. Hein. J'étais vachement protectrice. Donc, quand on partait au Sénégal et que l'une d'entre vous devait partir, ou avec qui, non, tu pars pas, reste là. Enfin, bref, je me vois bien faire un truc comme ça ou de dire non, tu... Bref, bloquer ou de dire non, non, elle va pas au Jacksaw, tu vois. Vu que je connaissais que ce terme-là. Ou en tout cas, je vous l'avais dit, en tout cas. Mmh. Je crois.
Oui. Et on nous avait, maman nous disait, si on vous demande si vous êtes excisé, vous dites oui.
Ouais.
Pendant très longtemps, on comprendra bien plus tard, mais on va y revenir avec justement les naissances, etc. arrive le moment, le temps de choisir sa moitié. Comment et pourquoi ton choix se porte sur celui qui deviendra le père de tes enfants? Est-ce que tu nous racontes? Comment tu le rencontres, comment il s'appelle, comment les choses se mettent en place.
Il faut savoir, avant d'en arriver là, que quand même, et c'est pour ça que je le disais au préalable, moi j'étais quand même conditionnée, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir deux vies. Cette vie à l'extérieur de la maison où j'étais dans une vie classique avec des activités, des copines européennes, africaines, maghrébines, tout ce que tu veux. Et une fois que j'arrivais à la maison, c'était encore ça, mais les poids de la tradition et de la culture étaient beaucoup plus présentes. Donc, ce que je savais dès mon plus jeune âge, et quand je pars à 8 ans au Sénégal, on me le dit aussi, c'est que je suis promise. Je suis promise à un cousin.
D'accord.
Donc déjà, moi, dans ma tête, quand tu me dis ça, je me dis, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se passe, on n'a pas le droit.
Tout ce qu'on se dit aujourd'hui.
Tout ce qu'on se dit aujourd'hui, j'aimais bien faire, du moins, me référer à la loi. Parce que même quand je partais en vacances là-bas, j'allais à l'école coranique et quand l'enseignant il était brut, voire violent, il disait « Ah, on n'a pas le droit, c'est interdit par la loi.
» Il t'écoutait ?
Non, il ne m'écoutait pas, mais par contre moi j'étais extrêmement bavarde, donc j'étais indisciplinée au possible et que... De toute façon, moi, je m'étais levée et je lui avais crié en français. Bien entendu, il n'avait rien compris, mais qu'on n'avait pas le droit. Et j'avais pris mes clics et mes claques et j'étais partie. Et j'étais rentrée en pleurant, en disant non, il a voulu me taper parce que je parlais et que non, on n'a pas le droit de taper les enfants. À l'école, on n'a pas le droit. En tout cas, en France, on n'a pas le droit. Et moi, je ne veux plus aller dans cette école-là.
Tu as continué à y aller ?
Un petit peu, mais de toute façon, vu que j'étais dans la résistance et que je comprenais pas ce que j'apprenais, il n'y avait pas cette approche pédagogique. J'étais dans je devais réciter des versets coraniques. Je comprenais rien. Ça n'avait pas de sens pour moi. Je savais que ça permettait de faire la prière, mais je me suis dit pourquoi moi, quoi? Et pourquoi les autres ils s'éclatent et pourquoi moi, en fait? Vous y alliez pas, moi je devais y aller. Bon, donc il y avait de la résistance. Donc toujours est-il que donc il y avait ce fameux cousin Germain, parce que là c'était un cousin quand même direct, avec qui voilà, mon père avait promis à son frère que s'il avait une fille il la donnerait à un de ses fils. Et mon oncle avait dit, bah, mon premier fils, ouais, je crois que c'est lui le premier d'ailleurs, il épousera ta fille. Voilà, donc c'était pour sceller, je sais pas quoi. Bref, ça fait partie des traditions, hein. Donc moi, il y avait quelque chose de cet ordre-là qui était attaché, et ils m'avaient dit dès le départ que c'était comme ça, mais dès ma naissance en fait. Avant même que je sois née, c'était écrit, etc. Et donc, je devais être obéissante, parce qu'il y a quand même ce truc de l'obéissance, de faire honneur à tes parents et d'être respectueuse. Donc, vers 12 ans, ça revient. Je repars quand j'ai 12 ans avec vous, avec mes sœurs. Donc, ça revient. Ça revient. Ils comprennent, en tout cas, les cousines. Comprennent que c'est pas du tout dans ma tête, que on n'a pas du tout les mêmes codes, pas la même éducation finalement, et qu'il faut y aller piano piano. Donc elles me font croire des choses, elles lâchent des brides et après hop, elles rétractent, etc. Ce cousin qui rôde un petit peu autour de moi, qui avait bah, facile, ouais, je sais pas, peut-être 10 ans de plus que moi, était sympathique, mais je le prenais. Voilà, c'était un cousin parmi tant d'autres. Donc, il était sympathique, mais il n'avait pas de gestes ou d'allusions. Oui, il avait bien vu qu'il avait une gamine devant lui, quoi. Donc, ça se passe comme ça. Après, il y a une correspondance épistolaire qui se met en place. Il m'écrit, je lui écris, machin truc. Et voilà, 15 ans, alors voilà, il m'envoie des poèmes. Je lui dis, ah, oh, c'est trop beau, là, là. J'ai trop de la chance. J'ai un Africain, un cousin sénégalais qui m'envoie des lettres. Je revois avec mes copines. Ah, oh, regardez, j'ai reçu une lettre du Sénégal et
Ça
tout.
veut dire qu'à 15 ans, en tout cas, tu te projettes dans l'éventualité que tu vas épouser ce cousin?
À 13 ans. Parce qu'à 15 ans, ça commence un petit peu à changer, parce qu'entre-temps, nos parents divorcent. Donc, ouais, je me laisse un peu manipuler, je comprends pas trop le sens, tu dis, bon, normal, c'est comme ça, normalement, on doit être comme ça, on doit le faire et tout, tout. Après, il y a rupture dans le sens où nos parents divorcent. Donc, là, la donne, elle change. Et cette fameuse promesse que mon père a tenue à mon oncle, elle tient toujours, mais elle est fragilisée par la séparation. Voilà, parce que maman, là, elle pense à nous, elle a subi le mariage forcé, et pour elle, il est hors de question qu'on me force. Alors, il faut que je me marie avec un Sénégalais, peul, musulman, noir. Bon, bref, faut qu'il rentre dans
Elle
les
a évolué
critères.
avec les années,
Avec les décennies, moi, je
Avec les
précise, avec
décennies.
les décennies. Mais voilà, c'était comme ça.
Du
Donc.
coup, ton choix va se porter sur une autre personne que ce cousin,
Ouais.
j'imagine. Comment se passe la rencontre avant de vous marier et qu'on puisse avoir le temps d'aborder la naissance des enfants, etc. Comment du coup ton choix se porte sur lui? Tu nous racontes en quelques mots?
Ouais, bah, Bah, il vient à la maison parce qu'il accompagne un ami à notre mère. Donc voilà, Ahmad. Il accompagne un ami de notre mère et il me rencontre à ce moment-là. Moi, j'ai 17 ans et je ne le calcule absolument pas. Moi, je suis avec un autre. J'ai déjà un autre copain, je suis au lycée, voilà. Donc à ce moment-là, il me rencontre, on se rencontre, mais je ne le calcule pas. Il dit à ma mère qu'il est intéressé par moi et notre mère. Et ma mère, elle lui donne le feu vert pour pouvoir m'appeler. Donc cet homme, seul mec qui peut appeler dans cette maison jusqu'à l'âge de mes 17 ans, c'est lui. Il m'appelle, il me dit, voilà, qu'il voudrait faire connaissance avec moi, etc. Alors moi, je suis au bout du téléphone, j'ai estomaqué, je lui dis, mais oh non, mais attends, c'est pas possible.
Ah, on rappelle quand même qu'il n'y a pas de portable à cette époque, il appelle
Non,
chez toi du coup.
ouais. Je me dis, c'est pas possible. Je me dis, c'est pas possible. Comment elle peut laisser un homme m'appeler, me parler, machin, bidule, bidule. Mais il rentre dans ses critères. Il est le profil type. C'est le persona. Donc, il appelle de temps en temps. Moi, j'envoie bouler. Hop, mais j'ai peur de ma mère. J'ai peur de ma mère, donc je peux pas faire mon insolente, mon impoli, etc. Et à ce moment-là, c'est à peu près là, à ce moment-là où je voyais moins notre père.
Quand tu me dis tu as peur de ta mère, genre tu as peur
De la
d'aller à l'encre.
décevoir.
Ouais,
Ouais,
ok.
de la décevoir.
Donc du coup, tu joues le jeu
Je joue le
des
jeu,
appels.
ouais.
Ok.
Je joue le jeu, je sais que j'ai un copain à côté. Lui, je lui fais comprendre qu'il ne m'intéresse pas, donc je joue le jeu. De fil en aiguille, ben, il arrive quand même à m'appâter. Hein. Si tu veux, je t'emmène au McDo, au ciné. Bon, enfin bref, 17 ans.
C'était Walt Disney.
C'est ça. Donc on sort tout doucement, il se passe. Ah oui, en plus à l'époque, quand je sortais avec lui,
Très important.
ciné, etc., j'avais un chaperon.
Qui était?
Ma sœur, notre sœur. Celle qui est juste après, celle qui est entre toi et moi.
Parce que
Donc,
bon, il pouvait t'appeler, mais faut pas abuser quand même.
c'est ça. Ah ouais, le chaperon là, c'était quelque chose. Bon, enfin bref. Bref, il a réussi à me séduire, j'étais séduite. Et puis, bah, quand il m'a demandé en mariage, bah, j'ai dit OK. Mais j'ai dit OK, alors j'ai compris bien, 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 des années après, que j'ai dit OK parce que j'avais besoin aussi de m'émanciper et de ma liberté là.
Ça y est, c'était le moment où tu avais
Ouais,
envie,
je
tu te
savais que ma
projetais.
porte, ma clé, ma porte de sortie, c'était le mariage.
Okay. Comme beaucoup de jeunes filles, malheureusement, qui sortent pas un peu trop rapidement par rapport à. Mais cette envie de t'émanciper, d'être chez toi, de voilà, de vivre ta vie, quoi.
C'était pas mon envie de. Du moins, c'est
C'est
pas
quoi alors? Quand
mon
tu
envie
dis.
de me libérer de ma mère.
Ok, donc à ce moment-là, tu as besoin de te libérer de ta mère. T'arrives à mettre des mots, pourquoi?
Parce que pour moi, c'est Alcatraz, c'est une tortionnaire, elle est trop méchante, elle est trop dure. Je supporte. Je crois que je vais mourir. C'est. Ma vie, je suis épanouie à l'extérieur de chez moi. Je suis bien avec les autres. Mais quand je suis avec ma mère, c'est compliqué.
Donc là, à ce moment-là, tu as juste une envie, c'est de fuir en fait.
Ouais, de la fuir. Elle, c'est elle que je veux fuir.
Ouais.
Je veux rester avec mes sœurs et mes frères, mais c'est elle que je veux fuir.
Donc ça se matérialise par ce
Mariage.
mariage.
Ouais.
Du coup, il coche des critères quand même pour toi ou c'est juste la fuite et sans regarder, sans
Je
trop te
tombe
poser.
amoureuse, hein.
Donc tu es amoureuse quand
Ouais.
même.
Non, 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 je tombe amoureuse, hein. Non, je tombe éperdument amoureuse de lui en plus, hein.
D'accord, donc tu fuis, mais pas avec un inconnu qui te plaît pas, avec
Non, non.
quelqu'un dont tu tombes
Non, non.
amoureuse, qui a des valeurs.
Non,
Vous avez des valeurs communes, du coup.
non. Ouais. Et puis je me dis, bah, je vais peut-être. C'est ce côté tradition, cette africanité qui me happe, qui m'appelle, qui me manque et que lui, il va pouvoir aussi m'apporter. Parce que lui, il est né donc en Mauritanie, il est mauritanien-malien. Il m'apporte en tout cas, il me nourrit en tout cas dans quelque chose que je ne retrouve plus avec ma mère parce que ça devient conflictuel en fait.
D'accord. Vous vous projetez rapidement dans cette vie de parent. Est-ce que vous mariez, vous profitez d'abord de votre vie de couple et ensuite vous allez avoir votre premier enfant, ou est-ce que très rapidement vous parlez de fonder une famille?
Non, non, non. Moi, je suis au lycée, donc l'idée, c'est de passer mon bac.
T'as quel âge?
17 ans.
Tu te maries à 17 ans?
18, 18.
18, parce 18, que vous faites un mariage civil.
Attends, attends.
Civil, de toute façon, 18 ans au minimum.
Non, non, je l'ai rencontré à 18. Attends, je l'ai rencontré à 17 ans. On se marie religieusement 2 ans après, donc 19. Et 1 an après, mariage civil.
Donc à 20 ans.
Ouais.
D'accord.
On a notre enfant, notre premier enfant à 22. Donc on prend le temps. Lui, il prend le temps. Je prends le temps. Mais lui, il est quand même un peu plus pressé que moi de fonder une famille. Moi, je commence un peu à flipper. Je suis bien, mais je me dis, bah, je vais peut-être encore poursuivre les études, etc. Après, voilà, c'est la vie à l'oca. Je vis dans un appartement avec lui. Mes copines, elles sont encore chez leurs parents. Oh, voilà, non, c'était top. Hein. Moi, j'ai quand même pas mal profité avant d'avoir notre enfant. Et une fois que j'ai le bac, je me dis, bon, allez, j'ai envie, voilà. Ok, je suis prête.
D'accord. Du coup, vous avez la même vision avant d'avoir Ibrahim sur la vie de parents, la vie de couple, le schéma éducatif. Est-ce que vous en parliez avant ou est-ce que ça se matérialise après la naissance?
Non, je suis une gamine. On a 8 ans d'écart, mais je suis une gamine. Je me pose pas toutes ces questions-là. La seule chose que je pose... Et avant même de se marier, avant même de se fiancer, c'est, voilà, je suis contre la polygamie et je suis contre l'excision.
Il est OK avec ça.
Et ça, c'est la condition sine qua non. S'il est OK avec ça, on y va. Si t'es pas OK avec ça, tu as un problème avec ça, ou quoi, tu as un doute ou quoi que ce soit, c'est mort, c'est cuit. Donc, c'est aussi un peu traîné parce que... Bon, je pense que je voulais aussi apprendre à le connaître, à le découvrir, etc. Et pas se me marier voilà, en 2-2. Mais ça, c'était une condition. Et là, il est OK.
OK, ça marche.
Ouais, là, il est OK.
Comment se passe la grossesse et l'arrivée de ce premier enfant?
Merveilleusement bien.
Ouais, OK.
Merveilleusement bien.
Tu vis bien ta grossesse,
ouais,
pas de complications.
Ouais. Je suis un bébé. J'ai 22 ans. Je suis pleine d'énergie. Je suis heureuse. Mon ventre grossit, grandit. Un petit être, il bouge. C'est l'expérimentation pour toutes mes copines parce que je suis la première enceinte. Donc, non, non, c'est super. Après, j'ai eu les nausées et tout. Et bon, vu que je suis douillette, j'en fais tout un pataquès. Lui, il est au petit soin. Donc, au top.
Tu perds les os?
Ouais, chez mon gynéco, que j'ai vu aujourd'hui d'ailleurs.
D'accord.
ouais, mais pareil, quoi. J'ai un super gynéco obstétricien. Je comprends rien. Il me dit que j'ai perdu les os. Non, non, mais j'ai pas fini mes courses. Bon, bref, il me dit non, mais tu pars nulle part. Mais pareil, c'est top. J'appelle toujours, quoi. J'appelle ma mère, ouais, et tu vois, j'ai même pas souvenir de l'avoir appelée tout de suite. Je crois que je l'ai appelée, mais bon, vu qu'elle n'était pas très démonstrative et très affectueuse, j'appelle assez rapidement mes copines qui arrivent. Bon, Ahmad qui arrive, qui est paniqué, et moi qui suis en mode pump-up, je lui dis vas-y, repars, moi tout va bien, je suis dans la chambre, j'ai un petit peu d'avance. Voilà, j'ai du chiadé dans la chambre, je suis toute seule, les sages-femmes, les infirmières, elles étaient toutes gentilles, toutes mignonnes, au top.
Tu arrives à la maison avec ce premier enfant, là, ça y est, il n'y a plus les infirmières, il n'y a plus tout le monde, c'est toi, ton mari, Ahmad et Ibrahim, comment ça se passe? Les premiers pas, est-ce que tu es à l'aise? C'est presque instinctif parce qu'un peu plus tôt, tu nous dis, bah, en fait, tu t'es toujours occupé d'enfants, tu as toujours vu naître des enfants. Du coup, ça se passe comme sur des roulettes, plus ou moins?
Je sais pas si ça se passe comme sur des roulettes, mais en tout cas, ça se passe bien.
Oui.
Je suis pas effrayée. Hein. Effectivement, hein, j'ai les gestes. J'ai les gestes. Et puis, je suis folle d'amour pour Ibrahim. Je suis folle d'amour. J'ai un truc qui jaillit en moi, là, que je n'ai jamais ressenti. Je pensais aimer énormément, infiniment son père, leur père. Et je lui ai dit, je lui ai dit, je t'aime de fou. Mais alors lui, cet enfant, il t'a surclassé, là. Du moins, il te dépasse. Donc, non, Ibrahim, je m'en occupe, je me pose plein de questions. J'ai une copine, là, une amie d'enfance, qui est puéricultrice. Donc, pour des questions techniques, PMI, je connais parce que maman, elle y allait. Donc, j'allais à la PMI. Donc, aucun problème.
Puis vient la grossesse et la naissance. Je passe un peu sur Ibrahim pour qu'on puisse avoir le temps aussi de parler de ton deuxième enfant. Surtout que c'est un parcours assez atypique sur lequel j'aurais voulu qu'on passe du temps. Il nous reste 10 minutes et je pense que c'est sur ce chapitre-là. Tu es enceinte, c'est ton deuxième enfant. Comment ça se passe, la grossesse, l'accouchement, la perte des os?
Alors, Abby, donc deuxième enfant, troisième grossesse, parce que juste avant, quelques mois auparavant, j'étais enceinte, mais j'étais pas vraiment prête. Voilà, j'avais quand même hésité sur le deuxième enfant, parce que j'étais voilà dans mes études, du moins je travaillais et voilà j'avais déjà de l'ambition, je voulais faire encore reprendre des études. Enfin bref, j'ai une fausse couche au bout d'un mois. Bon, je suis un peu effrayée parce que bah voilà, je perds du temps, machin, je suis flippée. Mais je rebondis assez rapidement et je me dis ouais, c'est que ça devait pas le faire. J'étais pas chaude. Pour son père, c'est beaucoup plus compliqué. Quelques mois après, je tombe enceinte donc de Abby et là, je suis OK. Là, je suis beaucoup plus alignée par ce choix de grossesse. La grossesse se passe merveilleusement bien, comme Ibrahim, tout va bien, l'accouchement et tout et tout. Le bémol. On découvre que Abby est drépanocytaire. Donc nous, on sait qu'on est drépanocytaire, son père et moi, qu'on est porteur du gène. Mais on n'est pas
Tu nous
malade.
expliques rapidement la drépanocytose.
Drépanocytose, c'est la drépanocytose, donc des globules rouges qui se cassent. Voilà, en tout cas qui se cassent. En tout cas, des globules rouges qui ressemblent à des croissants. Voilà. Et qui par moment, se cassent et empêchent la circulation du sang dans les artères. Et de la tête jusqu'aux pieds. Donc, Ibrahim est porteur sain, nous, ses parents aussi, mais Abby est malade. Donc, ce qu'on appelle drépanocytose homozygote, donc SS. Donc, elle est malade et on la prend au bout de ses. Parce qu'à la naissance, on fait des tests aux enfants et on la prend, elle a à peu près 3 mois.
Comment résonne cette triste nouvelle? Comment on vous accompagne? Qu'est-ce qui se passe pour toi, pour Ahmad?
Bah, là, c'est compliqué parce que déjà, moi, j'avais l'appréhension de quand Abby est arrivée, d'être en capacité de donner autant d'amour et d'aimer autant cet enfant que Ibrahim. Parce que dans mon histoire, dans ma fratrie, je trouvais que ma mère, elle n'avait pas le même intérêt pour ses enfants et qu'elle donnait pas le même amour à chacun de ses 7 enfants. Et j'avais hyper peur d'être là-dedans.
Ben ouais,
Donc,
forcément.
alhamdoulilah, ce n'est pas le cas, en tout cas, à mon sens. Mais à mon sens. Donc voilà, je suis rassurée. J'aime, voilà, j'ai la même émotion, forte émotion quand Abby arrive. Et du coup, j'ai à peine le temps de réaliser que j'ai 2 enfants, etc., que cette nouvelle, elle arrive. Bah le monde, il s'écroule. Le monde, il s'écroule. Mais je rebondis assez vite parce que je suis très bien entourée. J'ai des amis, j'ai des mères d'amis qui sont, une en l'occurrence Mireille, qui est présente. Et en fait, on fait des recherches, on explique, le médecin nous explique ce que c'est.
Oui, parce que du coup, dans le schéma, dans ton modèle familial, il n'y avait pas d'enfant porteur et malade. Non. Donc en fait, tu le découvres au moment de la naissance d'Abby. Oui. Hein.
Déjà, je le découvre à la naissance d'Abby. Et comme tu le dis, on n'a jamais, du moins, la maladie... telle quelle, génétique, on ne connaissait pas. Mm. Voilà. Alors, des accidents, des opérations au niveau de nos frères et sœurs, ça, on connaissait. Mais là, la maladie génétique, un handicap, en situation de handicap, parce que c'est le cas, on ne connaissait pas. Et en plus, moi, quand j'en parle à notre mère, dans le déni, non, ça c'est des trucs de blanc, une fois que tu as dépassé ça, une fois qu'elle a dépassé ça, bon, c'était très compliqué. Donc, moi, je...
Elle comprend, en fait, quand la maladie frappe physiquement, que ce n'est pas imaginaire, etc.
Non, ouais. C'est à ce moment-là qu'elle commence à réaliser, vraiment. Et bien des années plus tard, je crois qu'elle a dû voir Abby une fois à l'hôpital, une ou deux fois à l'hôpital. Aujourd'hui, elle en a 21 ans et elle en a fait des allers-retours à l'hôpital. Mais pas parce qu'elle ne l'aimait pas. Hein. C'est parce que c'est compliqué pour elle. La maladie, l'hôpital, etc. Mais pour autant, d'essayer jusqu'à un certain nombre d'années d'annuler que ma fille, donc sa petite fille, était malade, ça a été compliqué. Ça n'a pas aidé dans ma relation avec elle, avec notre mère.
Et aujourd'hui, comment... Alors, tu apprends que Abby est porteuse de cette maladie. Mmh. Aujourd'hui, comment ça se manifeste? Comment ça s'est manifesté enfant? Comment on met en place les protocoles quand on a un enfant atteint de la drépanocytose? Est-ce que les gens sont sensibilisés, pas sensibilisés à l'époque déjà? Parce qu'aujourd'hui, elle a une vingtaine d'années, mais quand elle était beaucoup plus petite, on fera une émission parentalité spéciale pour drépanocytose. Il y a tellement de choses à dire et les parents qui ont des enfants porteurs de drépanocytose ont vraiment des tas de choses à dire et vivent des choses qui ne sont pas faciles. On ne peut pas condenser ça en 10 minutes, mais pour autant, quels sont les temps forts dans la prise en charge justement de cette maladie, de la naissance jusqu'à aujourd'hui?
Moi, j'ai de la chance d'être tombée sur des médecins et des professionnels bienveillants. Un peu déjanté, mais dans le bon sens du terme, avec qui la communication elle était fluide et bienveillante. Donc, à partir du moment où moi je me suis complètement appropriée cette maladie, de la conscientiser, de la comprendre, etc., moi j'avais en tout cas pour que je puisse poursuivre une activité professionnelle, parce que je m'épanouissais aussi beaucoup dans mon travail, de pouvoir former tous les acteurs qui étaient autour de ma fille. De l'animateur à l'ATSEM, à l'enseignant, au directeur, à l'infirmière scolaire, au médecin scolaire. J'avais des dépliants, les 10 règles d'or, la définition de la drépanocytaire. Et ça, j'ai fait ça de la maternelle, non même pas, de son premier mode de garde, de la crèche familiale, de la nounou, jusqu'au
lycée.
Lycée. Ouais, jusqu'à ce qu'on me retire ça, et que c'est... Elle est majeure et qu'elle se doit débrouiller. Et encore, même quand elle a eu 18 ans, j'étais quand même encore dans les pattes pour m'assurer que... ouais, jusqu'à ce qu'elle rentre à la fac. Jusqu'à ce qu'elle rentre à la fac. Mais voilà, voilà, l'hydratation, mais comme tu disais, ouais, c'est on ne peut pas condenser 20 ans d'explications de prise en charge. Toujours est-il, c'est que ça a été un combat fort, très fort, que j'ai porté pendant longtemps, parce que je me suis rapprochée d'associations, j'ai milité aussi, qu'il était important qu'Abby, elle connaisse bien sa maladie, qu'elle connaisse bien son corps, et qu'à à travers les différentes épreuves qu'elle a pu passer et qu'on a été avec elle, auprès d'elle, qu'elle soit d'une certaine manière autonome, et aujourd'hui elle l'est parce qu'elle vit plus trop à la maison parce qu'elle voilà, elle est en études supérieures et loin de la maison, elle sait se prendre en charge, qu'il y a encore, je pense, qu'elle a encore besoin d'un étayage et qu'il faut que je sois quand même vigilante, même à bientôt 22 ans, parce que c'est pas simple, parce qu'elle est jeune et qu'elle a envie de vivre sa vie de jeune de 20 ans. Mais qu'elle a des prédispositions qui font qu'il faut qu'elle fasse attention à son état à sa fatigabilité qui engendre et qui peut engendrer des crises.
Dans tout ce que tu racontes là, on a envie de se poser la question, et je suis sûre que les auditeurs aussi. Et Ibrahim, dans tout ça, comment il trouve sa place, comment vous évoluez, quelle relation il a avec sa sœur, avec toi aussi. Tu parlais tout à l'heure de la perception d'un enfant qui peut avoir l'impression que le lien, le rapport, le ressenti, les sentiments de ses parents ne sont pas les mêmes. Est-ce que tu t'es posé la question des fois de la place d'Ibrahim, comment il ressentait les choses, parce que du coup, Abby, elle demandait une attention, jusqu'à présent d'ailleurs, une attention particulière, une avenance aussi.
Ibrahim, il a toujours été bienveillant, présent auprès de sa sœur et vis-à-vis de moi, même vis-à-vis de son père. C'est-à-dire que même quand j'étais enceinte, il a toujours été tout mignon avec elle, vraiment. Et quand elle est arrivée, il a toujours été crème. Voilà, c'est un grand frère protecteur, très taquin. Ils ont une très très belle complicité, ils sont limite fusionnels. Comme ils aiment à se dire, voilà, c'est son meilleur ami, son frère. Voilà, là, elle est là, elle n'est pas en grande forme, donc on se relaie auprès d'elle quand elle n'est pas en forme. J'ai toujours fait en sorte d'être très présente pour Ibrahim, voire même un peu trop, et d'être peut-être même parfois exigeante vis-à-vis de lui, parce qu'il a un tel potentiel, c'est une belle âme, c'est deux belles âmes. C'est pas parce que c'est mes enfants, mais je mais vraiment c'est des belles âmes. Bon, enfin bref. Et il y a une année où Abby était très malade, et du coup on était beaucoup les uns et les autres à l'hôpital à se relayer, etc. Et c'est peut-être l'année là, il était en CE1 et d'ailleurs il l'a retapé ce CE1, où on était moins, mais parce qu'il devait être, il était inquiet aussi pour sa sœur. Peut-être un peu moins présent, on était tous focus sur Abby, elle se faisait opérer, elle a été en réa et tout, donc c'était compliqué. C'est pas un regret, c'est pas ça. Mais si j'ai manqué à un moment donné, peut-être à mon devoir en tant que mère de présence à 3000%, c'est sur cette année-là pour lui. Après, je me suis rattrapée, après j'ai toujours été là et je suis toujours là pour lui, comme pour elle d'ailleurs.
Mais on sait que des fois, les perceptions, elles peuvent être réceptionnées différemment. Et c'est normal, je pense, c'est que beaucoup de parents qui ont des enfants, qu'ils soient uniques ou multiples d'ailleurs, qui peuvent développer ou qui sont porteurs de maladies génétiques, peuvent culpabiliser dans justement entre le besoin, l'envie d'être, de rien louper, en fait, de tout. De tout organiser, de tout anticiper, de préparer son enfant aussi à être autonome face à ça, parce qu'on sait qu'on n'est pas toujours là, d'avoir les bons réflexes. Et de l'autre côté, de gérer la vicote, les autres enfants, etc., en fonction de quand ils sont malades, ils ne sont pas malades, ils sont hospitalisés, ils ne le sont pas. En même temps, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui peuvent culpabiliser, et en même temps, on ne peut pas se démultiplier. C'est être présent d'un côté et de l'autre à la fois. Peut-être physiquement d'un côté et moralement dans le suivi, les textos. Parce que je sais que, voilà, toi, t'es, même quand Abby a pu être hospitalisée longtemps, tu es quand même aussi focus sur Ibrahim, focus sur sa scolarité, focus sur... t'as rien cédé, quoi.
Ah non, non, je me dédoublais. C'est-à-dire que je dormais la nuit à l'hôpital. Son père, il était là quand on n'était pas encore séparés. Et si on était séparés, il prenait Ibrahim. On a toujours fait en sorte d'être au max là pour lui et pour elle aussi. Mais je sais pas, je pense que c'est à lui qu'il faut poser la question. Mais... j'ouvrirai mes veines pour ces deux-là, ça c'est certain, ça se pose pas de questions. En tout cas, toujours est-il, c'est que c'est pas simple d'avoir un enfant malade, que la communication avec les enfants, c'est le point culminant de notre fonctionnement dans cette famille, vraiment. On peut se fâcher, on peut bouder, on peut se vexer, etc. Le respect, ça c'est important. Mais on se dit les choses. Aussi difficile que ça peut être entendu ou quoi que ce soit, on se dit. Et puis, je leur dis beaucoup que je les aime. Hein. Je les touche, je suis quelqu'un de tactile, donc je leur dis beaucoup que je les aime. Et je leur dis, je leur montre, je leur démontre tout le temps. Et,
quelque chose qui est important pour toi ?
Ouais, c'est essentiel, parce que c'est pas ce que j'ai eu. C'est pas ce que j'ai eu avec notre mère. Donc ça, c'est important. Avec notre mère, il l'a montré à sa manière, mais j'avais pas de doute. Ma mère...
T'as douté ?
Encore aujourd'hui.
Tu doutes encore aujourd'hui de l'amour qu'elle te porte ?
Ouais. Du moins, je crois que, du moins, c'est comme je te disais, elle aime ses enfants. C'est indéniable, elle aime ses enfants. Ce qui me dérange, c'est le degré d'amour qu'elle peut donner à ses différents enfants, qui n'est pas uniforme. C'est ça qui me dérange. Et du coup, moi, dans l'éducation que je donne à mes enfants, j'essaye de pas faire cette différence. Ce que j'ai compris, peut-être pour finir, c'est... tu peux pas comparer l'amour que tu peux avoir avec, pour un être à un autre. Voilà, tu l'aimes, c'est le cœur, c'est des émotions, c'est des sentiments, etc. Ce que tu aimes, c'est aussi des personnalités. C'est tes enfants, certes, mais c'est des personnalités, c'est des caractères. Et c'est comment tu interagis avec ton enfant. Il va être forcément différent parce que ce n'est pas les mêmes caractères. Tu peux leur donner la même éducation, mais c'est des caractères différents. Mais ce qui est important, c'est que les deux enfants, parce que moi j'en ai deux, que ces deux enfants, avec leurs caractères différents et la manière dont je procède avec eux, qu'ils comprennent bien que je les aime. Du plus profond de mon cœur. Voilà, c'est ça, moi, ce qui m'importe. Vraiment, c'est ce qui m'importe. Et qu'ils ne se disent pas, tiens, elle est différente. Si je suis différente, c'est parce que son caractère fait que je suis obligée de l'amener à faire ceci, à faire cela, etc. Et du coup, je mets des mots dessus où eux, quand ils vont me taquiner, ouais, mais parce que c'est elle, parce que c'est celui-là. Ouais, mais parce que tu sais très bien comment elle est, elle, comme ta sœur, comment elle est, et tu sais très bien comment ton frère, il est comme ça, machin. Donc, et après, c'est un jeu, c'est une histoire de ping-pong. On est beaucoup dans l'autodérision, dans la répartie, etc. Mais voilà, je pense que tu peux aimer très, très fort tes enfants, de leur expliquer qu'il n'y a pas de différence, que la seule différence, c'est que dans ton approche, c'est parce que c'est des caractères différents, mais que tu les aimes autant l'un que l'autre. En tout cas, tu les aimes énormément. Et c'est ça qui importe. Mais quand tu commences à montrer plus d'intérêt à l'un et moins à l'autre, et que tu ne mets pas des mots dessus, c'est là que tu peux créer des fêlures. Chez l'un des enfants.
Et là, tu mets le doigt sur quelque chose d'important aussi, on le sent. Tu as dit, si on ne met pas les mots dessus. Et pour le coup, c'est sur cette phrase qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Même si on n'a pas été dans les recoins du divorce, etc. Une heure, ça passe très, très vite. Merci à toi. Merci de t'être confié sur ton histoire, ton ressenti, ton vécu et ton... ton ton lien avec la famille, que ça soit celle dans laquelle tu as grandi, mais aussi celle que tu as construite. Merci à Mon Paris FM de nous recevoir. Merci aux auditeurs de nous faire confiance également. Et est-ce que tu as un mot de la fin ?
Bah, merci pour cette invitation. Au-delà d'être ta sœur, je suis une invitée comme les autres. En tout cas, je voulais quand même le préciser.
C'est faux, elle me menace.
Merci à Paris FM de donner cette tribune, de pouvoir échanger là-dessus. Parce que, en tout cas, de nous donner le micro et de pouvoir échanger sur ce sujet-là, sur ces sujets-là. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace, l'air de rien. Et ce type d'espace-là se font rares. Donc, merci à toi. Merci pour ce beau travail que tu fais. Et bah ouais, je vais te le dire avec la petite larme à l'œil, parce que de toute façon, je suis toujours un peu... Je suis une femme sensible. Je suis très fière de toi et je t'aime.
Ah, merci. Sur ces mots doux qu'on va se quitter. Surtout, n'oubliez pas, personne ne doit rester à l'arrêt. Je vais lui filer des mouchoirs à chial. Ciao.